Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, levons les yeux vers la constellation du Cygne. Elle est aussi appelée la Croix du Nord, en référence à la constellation australe, la Croix du Sud. Elle semble posée sur la Voie lactée et forme un grand oiseau qui migre vers le sud. Elle est composée d'étoiles brillantes, la plus connue étant Deneb, qui fait partie du grand triangle de l'été. Même si elle est la moins brillante du triangle, une fois repérée, on la situe bien et elle nous guide vers la constellation du Cygne. Deneb est en fait la queue du Cygne, ou alors le haut de la croix. Les ailes du Cygne se déploient presque parallèlement à la ligne Vega Altair, qui sont les deux autres étoiles brillantes du triangle de l'été. Et elles se replient vers Deneb en leurs extrémités. Le Cygne est une constellation très nette et régulière. Elle a été repérée depuis longtemps. Et donc, tout un tas de mythologies sont associées à son image. Selon l'une des légendes, le dieu Zeus s'était déguisé en cygne pour séduire Léda, dont il eut pour enfant les deux gémeaux, Castor et Pollux, et Hélène de Troie. Elle pourrait également représenter Orphée, métamorphosé en cygne après son assassinat et placé dans les cieux à côté de sa lyre. Et enfin, on dit qu'un jeune homme, appelé Cycnus, était l'amant, ou le demi-frère, du malheureux Phaéton. Après que celui-ci ait été foudroyé par Zeus pour avoir conduit les chevaux du soleil et fait brûler la terre, Cycnus se mit à chercher son corps désespérément, dans le fleuve de l'Éridan où il était tombé. Cycnus plongea tant de fois dans le fleuve que Zeus eut pitié, et le changea en oiseau aquatique qui porte depuis son nom. Répertoriée par les astronomes grecs, cette constellation est alors désignée sous le nom de l'oiseau. Elle fut également désignée sous le nom de la Croix de Sainte-Hélène, par Julius Schiller, en 1627, à une époque de christianisation massive du ciel. La constellation de la Croix du Sud est issue de cette époque. Dans la mythologie chinoise, la constellation du Cygne héberge une fois par an le pont qui relie les amants Niulang et Xinyu. Mais nous en parlerons de cette histoire une prochaine fois, quand nous contemplerons la constellation de l'Aigle. Revenons à notre Cygne. Comme c'est une assez grande constellation et qu'elle comprend un bout de Voie lactée, le Cygne regorge de choses très intéressantes à observer, dont beaucoup sont visibles à l'œil nu. Alors, commençons d'abord par la tête du Cygne. Elle s'appelle Albireo. Elle est aussi appelée Beta Cygni. Toutes les étoiles visibles sont cataloguées et nommées. Et ce, dès le début du XVIIe siècle, quand Johann Bayer va répertorier les étoiles dans son Uranometria, le premier atlas céleste couvrant toute la sphère céleste, qui est paru à Augsbourg en 1603. Le nommage consiste le plus souvent d'une lettre grecque suivie par le génitif du nom de la constellation où l'étoile se trouve. Par exemple, Albireo, c'est Beta Cygni, ça veut dire l'étoile bêta du Cygne. En effet, l'ensemble des constellations découpe tout le ciel en zones, donc tout objet céleste se trouve forcément dans une constellation. Donc les étoiles d'une constellation sont nommées séquentiellement, en principe par luminosité décroissante, c'est-à-dire que les étoiles les plus brillantes sont nommées d'abord. Elles reçoivent des lettres grecques minuscules, alpha, bêta, gamma, etc. Mais l'alphabet grec n'a que 24 lettres. Lorsqu'une constellation possède plus de 24 étoiles, Bayer a recours aux lettres de l'alphabet latin, en débutant par le grand A majuscule, ça c'est la 25e étoile, puis le B minuscule, la 26e, jusqu'au Z minuscule, la 48e. Bayer ne dépasse pas le Z minuscule, auquel il n'a d'ailleurs recours qu'une seule fois, pour désigner Z Herculis. Mais lorsque la désignation de Bayer sera ultérieurement étendue à d'autres étoiles, les lettres latines majuscules sont utilisées jusqu'à Q. Il y a cependant des exceptions à cette classification, comme par exemple le Cygne. Albireo, Beta Cygni, ce n'est pas la deuxième la plus brillante. Mais à l'époque de Bayer, elle était connue, identifiée et nommée. Elle a donc eu une lettre plus avancée. D'autant plus que la mesure de la brillance, appelée magnitude, n'était au XVIIe siècle pas vraiment précise. Alors revenons à notre Albireo, c'est la tête du cygne. Pas la plus brillante, mais elle se révèle très intéressante dès qu'on a un instrument, lunettes ou télescope. Pas besoin d'un gros instrument pour admirer l'étoile du bec. Observée avec un grossissement de 30 fois, Albireo révèle sa vraie nature, c'est une étoile double. Ce sont deux soleils, séparés de 34 secondes d'arc, en gros le diamètre de Jupiter. Il s'agit en réalité d'un faux système binaire. Les mesures effectuées par le satellite Gaïa ont révélé que les deux astres sont séparés d'environ 60 années-lumière, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas liés gravitationnellement. Il existe de nombreuses étoiles doubles ou multiples dans le ciel, mais ce couple a la particularité de présenter une différence de couleur très nette. La plus brillante, Albireo A, d'une magnitude 3, c'est-à-dire très brillant, tire sur le jaune. Sa voisine, un peu moins brillante, qui est Albireo B, a une magnitude de 5, et elle est bleutée, ça veut dire qu'elle est plus chaude. Ces particularités leur a valu les surnoms de Topaz et Saphir. Un autre système double est visible dans le cygne. Il s'agit de 30 et 31 cygnes. À l'œil nu, elles peuvent être distinguées, mais avec une paire de jumelles, 31 cygnes devient double à son tour. Ce trio dévoile un magnifique contraste de couleurs. L'étoile la plus brillante de 31 cygnes est légèrement jaune. Sa compagne est légèrement bleutée, alors que 30 cygnes brillent, elle, d'un éclat blanc acier. La perspective joue une nouvelle fois son rôle, puisqu'en fait, 31 cygnes est à 1500 années-lumière de la Terre, alors que 30 cygnes est moitié plus proche de nous. Nous avons donc l'impression qu'elles sont toutes proches, mais en fait, elles sont vraiment l'une derrière l'autre. La constellation du Cygne est comme posée sur la Voie lactée. Par une nuit sans lune et sans pollution lumineuse, vous pourrez observer ce ruban d'étoiles de toute taille qui parcourt le ciel. Mais alors pourquoi y a-t-il autant d'étoiles dans cette zone du ciel? Eh bien c'est tout simplement parce que la Voie lactée, c'est notre galaxie que l'on observe. On observe notre galaxie par la tranche. C'est pourquoi c'est un endroit plus dense en étoiles et en objets stellaires que le reste de l'univers proche. Vous le savez certainement. L'univers est né à la suite d'une incroyable explosion que l'on appelle le Big Bang. L'histoire de ces connaissances qui nous a amenés à cette théorie est vraiment passionnante, mais un peu longue à raconter. Donc ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser à l'histoire de l'univers. Le Big Bang a eu lieu il y a à peu près 14 milliards d'années. À ce moment-là, et pendant près de 300 000 ans, l'univers est à peu près comme une soupe de rayonnement très énergétique, de particules de matière, protons, neutrons, électrons, qui s'annihile avec la même quantité d'antimatière. La matière étant en proportion légèrement supérieure, le reste formera le futur univers. Les premiers noyaux se forment par la réunion des protons et des neutrons. Ça s'appelle la nucléosynthèse primordiale. À ce moment-là, les photons restent prisonniers car ils interagissent en permanence avec les particules de matière. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la lumière est prisonnière. Après 300 000 ans, la température de l'univers a baissé. Les premiers atomes se forment, des électrons se combinent avec des noyaux déjà formés, et toute cette matière va peu à peu se regrouper, s'organiser. En se regroupant, ils vont former les premières étoiles. C'est ce qu'on appelle l'aube cosmique. Cette année, une galaxie appelée HD1 a été observée tellement loin que la lumière observée semble avoir été émise 300 000 années après le Big Bang. Ça pourrait donc être la lumière la plus ancienne de l'univers. Ensuite, les atomes d'hydrogène, les plus simples, vont s'attirer les uns les autres et se regrouper en très grand nombre pour former les étoiles. Dans les plus grosses de ces étoiles, d'autres atomes font leur apparition. L'hélium, l'hydrogène, le sodium, le magnésium. Tous les 26 atomes les plus légers de l'univers jusqu'au fer. Ils sont créés dans les étoiles. L'oxygène que vous respirez, le calcium de vos os, le magnésium de vos chocs à pic, tout ça a été créé dans les étoiles. Nous sommes donc, nous, et tout le monde qui nous entoure, des descendants, des poussières d'étoiles. Alors me direz-vous, il y a d'autres éléments que les 26 premiers du tableau périodique. Alors vous avez raison, mais cela nous emmènerait un petit peu trop loin pour aujourd'hui. Je vous en reparlerai bientôt. Revenons à notre univers. Les étoiles se forment et leur masse importante va, par l'intermédiaire de la force de gravitation, les faire ingir entre elles, entre voisines. C'est la création des galaxies. Les galaxies sont un assemblage d'étoiles, de gaz et de poussière, de vide et peut-être même essentiellement de matière noire, contenant parfois un trou noir supermassif en leur centre. Les galaxies ont une histoire, les plus petites galaxies étant absorbées par les plus grandes. Deux galaxies peuvent se rencontrer, ou plutôt se rentrer dedans. L'histoire de chaque galaxie se lie dans la répartition de ses éléments, dans sa vitesse de rotation. Il y a des galaxies de formes différentes. Mais ces galaxies, elles ne sont pas autonomes. Elles sont elles-mêmes organisées en amas. Les galaxies peuvent se lier entre elles avec la force de la gravitation et former des amas de galaxies de dizaines de millions d'années-lumière de longueur. Celui auquel appartient la Voie lactée, notre galaxie, est appelé notre groupe local. Parmi la trentaine de galaxies qu'il abrite, on trouve notamment la fameuse galaxie d'Andromède. L'univers compterait 25 milliards d'amas de galaxies. Les amas se regroupent ensuite au sein de superamas, des structures gigantesques de l'ordre de 150 millions d'années-lumière et composées de plusieurs dizaines d'amas chacune. Le groupe local appartient au superamas de la Vierge. Dans l'univers visible, il y aurait à peu près 10 millions de superamas. Les superamas s'organisent enfin en filaments, comme dans un réseau tridimensionnel en toile d'araignée ou en un réseau de neurones. Et entre les superamas, il existe donc d'immenses zones de vide. L'univers est dit lacunaire. Des zones qui atteindraient pour certains des centaines de millions d'années-lumière. Selon les astronomes, ces zones de vide représenteraient à peu près 90% du volume total de l'univers. De quoi méditer sous le ciel étoilé à notre toute petite place dans l'univers.